Et bonjour, une nouvelle émission de « Et si on en parlait ?» avec toujours à la technique César et son ami Peter, qui lui file un coup de main. Et comme invité, nous avons Bruno Rigal, qui est déjà venu plusieurs fois. Bonjour Bruno.
Bonjour Michel.
Bien réveillé, tout va bien?
Bien réveillé, oui, très bien réveillé.
Alors Bruno, qui est à la retraite, mais pas entièrement.
Non.
Tu as été psychologue toute ta vie, en fait?
Non, j'étais psychologue les 12 dernières années de ma vie.
T'étais quoi avant, instituteur?
Avant, j'étais instituteur, éducateur, animateur pédagogique. Enfin bon, des choses très variées.
Et là, maintenant, tu continues
Et maintenant, à la retraite, il n'y a rien de plus occupé que retraité.
Qu'un retraité, oui.
Voilà, surtout un retraité au sens espagnol du terme. Jubilado, les retraités, ils jubilent, ils jouissent, ils ne sont pas en faillite. Ils sont pas retraités.
Et on t'avait reçu il y a très 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 longtemps, où tu nous avais raconté ton anecdote de que tu avais un accident de voiture.
Oui.
Et ça d'ailleurs, l'anecdote, après on n'en avait pas parlé, tu as failli brûler dans la bagnole, et il y a un mec qui s'est arrêté, qui t'a sauvé la vie.
Oui.
Et ce monsieur, il s'appelait Delrieux.
Claude Delrieux. Comme
et
ton
un jour, voilà, on était à une fête ou un mariage.
Oui, une fête, on t'avait invité à notre fête.
Et nous, on jouait avec un accordéoniste qui s'appelle Claude Delrieux. Et tous les deux se trouvaient à côté, ils avaient le même nom. Donc c'était assez...
Et surtout que cette première fête, elle avait pour objectif de mettre en valeur notre ami.
Oui, Claude Delrieux.
Et toi, tu avais comme accordéoniste ton ami Claude Delrieux.
Est-ce que tu peux nous rappeler, enfin, pour les gens qui ne savent pas l'anecdote, hein, ben, quand tu as failli mourir, il y a plein de choses qui se sont passées.
Oui, ben, c'est le plus beau souvenir de ma vie, hein, ça le restera toute ma vie. Enfin, peut-être qu'il y en aura d'autres plus beaux encore, hein, il faudra avoir de l'espoir, mais j'ai eu cette expérience si souvent racontée de mort immédiate.
De mort immédiate, oui.
Qu'étrangement, j'ignorais totalement avant de la vivre. Et voilà, j'ai eu un accident terrible. Et j'ai été écrasé. Ma voiture a été écrasée, elle a flambé. Et moi, j'ai été écrasé, cartelé et sauvé par un petit homme, plus petit que moi encore, très très courageux, et qui m'a sauvé des flammes et qui est devenu un deuxième papa. Voilà.
Et alors, tu dis que tu as vécu la mort. En fait, tu es parti, tu étais mort, et en fait, tu n'étais pas mort. Quoi.
Alors, je ne sais pas si j'étais mort ou pas mort.
Qu'est-ce qui s'est passé alors?
Que je n'étais plus là, et que ça donnait vraiment l'idée d'une ascension, et que j'étais dans un monde. C'est très difficile d'en parler parce que c'était tellement beau, et tellement émouvant, tellement merveilleux. J'ai
l'impression de sortir de toi. Quoi.
Voilà. Ah ben, sortir de moi, ça, il n'y a aucun doute. Mais enfin, j'étais pas sorti de moi, j'étais moi là-haut. J'étais sorti de ma carapace charnelle.
Et tu te voyais en bas, quand même?
Je voyais tout, et surtout, j'étais merveilleusement bien là-haut.
T'avais pas envie de revenir,
quand même. Ah, certainement pas, non. Ah. Et c'est, quelque part, parce que je remercie beaucoup d'être revenu, hein, j'adore vivre ici. C'est un petit peu la brusquerie des soignants, mais ils m'ont pas brusqué, mais leur manière de parler, de carabin, qui peut pour se donner du courage, parce qu'on doit être tellement affreux quand on est dans cet état sanguinolent.
Il faut pas s'apitoyer dans ces trucs-là, voilà. Sinon tu fais rien.
Et alors, ils parlaient pas en s'apitoyant, et ça, du coup, chaque fois que leurs paroles me paraissaient un peu dures, je redescendais sur terre à faire quelques signes avec mes doigts, mon nez, ma bouche, enfin, comme je pouvais. Pour dire que j'étais pas trop d'accord et que je voulais que j'étais pas le pauvre bout de viande qui allait mourir, mais que j'étais bien toujours Bruno Rigal.
Voilà. Ah oui, ça.
Et alors c'est comme ça que j'ai survécu en réalité.
Et est-ce que c'est ça qui t'a donné envie après de t'intéresser aux gens, ou déjà tu t'intéressais aux gens?
Non, je suis une famille où on s'intéresse aux gens depuis qu'on est. On m'a toujours appris ça et l'amour des gens m'habite depuis que je suis né, voilà.
Et tu vis avec une femme qui est justement dont les coutumes sont de s'occuper un peu de tout ça quand même, non?
Voilà.
Ben, elle est indienne, plus ou moins.
Non, elle est pas indienne, mais elle est péruvienne, elle est latino-américaine.
Oui.
Elle est plutôt d'origine néocoloniale en réalité.
Oui.
Mais peut-être que elle défend le monde indien peut-être beaucoup mieux que beaucoup d'Indiens eux-mêmes. Et l'entité, l'idiosyncrasie péruvienne.
Oui, pourquoi là?
L'idiosyncrasie.
Je sais pas ce que ça veut dire. Je suis moi-même un idiot, mais.
Ben, l'idiosyncrasie. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est la manière d'être, la manière de porter la culture d'un peuple, d'un pays. Et je crois que Carla et ma femme représente ça beaucoup mieux, en tout cas très bien. Voilà. Très bien. Beaucoup mieux, j'en sais rien, mais très bien, c'est sûr.
J'ai d'ailleurs noté qu'elle a les cheveux de plus en plus noirs, donc on peut dire que Carla brunit. Alors entre vous, c'est un peu Roméo et Juliette. On va faire une première pause musicale avec justement Roméo et Juliette, interprété par Abdelmalik. Oui. Beaucoup disent que c'est le nouveau Brel. Alors là, je suis quand même... Moi, personnellement, pas tout à fait d'accord, parce que c'était un cas, Brel, on peut le dire. Bon, tout le monde va juger, on écoute Roméo et Juliette, et en t'écoutant parler, moi j'ai fait un petit hommage aussi à César, qui lui-même a fait fac de psychologie, donc vous pourrez en parler tout à l'heure.
Alors, vive César.
Allez, Roméo et Juliette, d'après le Malik.
Il boit une 8-6. Mini Austin, il sort du périph. Gangsta rap culture, cette musique l'a rendu autiste. Il a rencard avec une fille moitié brésilienne, moitié kabyle. Gogo danseuse, elle dit être artiste. Il connaît toutes les répliques du film Scarface. Le frère, il dit, mes mains, elles sont pas faites pour cette merde. La cité l'a vu grandir, lui a tourné la tête parce que, selon le contexte, on confond force et faiblesse. Elle chante, elle rêve de la carrière de Wallen. Elle a perdu tout repère depuis le décès de son père. C'est l'allégorie d'une fille facile qui est assise à la place du mort, qui pense que je t'aime n'est qu'un mouvement du corps. Elle aussi va et vient, se donne et regrette. Ensuite lui kiffe, SMS, elle se pointe de suite. Ils vendent la CC, alors ils jouent les barons, le duc de la cité. Leur cœur bat de concert, affective mendicité. Il s'appelle Roméo, elle s'appelle Juliette. Roméo et Juliette.
Il accélère, elle rabat un peu le dossier du siège, il lui dit « tu es belle ». Elle s'engouffre dans le piège, puis dévie, elle dit « en ce moment je lis Malraux ». Elle a une fausse poitrine et les fantasmes d'une bimbo. Alors fatalement, ce qui l'intéresse chez elle au départ, c'est pas son cerveau. Elle s'en rend bien compte et se mordit la lèvre. Comme quand gamine, elle joue au cerceau. Ce monde, il est horrible. Et nos gamins, ils y périssent tellement vite, mais on en est tous là. C'est juste l'amour qu'on cherche à vivre. Et si ça part en vrille, c'est que c'est sans modèle. T'es livré à toi-même. Et l'âpreté de la vie ne rend pas forcément meilleur les caractères. On peut même être sous des apparences contraires, indifférent à l'autre quand la douleur est égocentrée, parce qu'en vérité, c'est sur nous-mêmes qu'on s'est prosterné. C'est juste une métaphore qui pourrait être biblique comme le veau d'or, parce que notre époque est d'accord dans le désaccord. On est déchiré par l'absence et le vide, en prise avec nos paradoxes, le besoin d'amour complique. Il s'appelle Roméo.
Elle s'appelle Juliette. Roméo et Juliette. Elle approche son visage, se rétracte, se demande si au fond, elle-même n'est pas une sorte d'offrande, sacrifiée sur l'autel de toutes celles qu'on mal, qui souffrent, qui peinent tellement de ne pas avoir confiance en elle. Même si elle sait bien que son « je t'aime » est factice, elle se dit, aux yeux de quelqu'un, au moins elle existe. Lui, il a la main gauche sur le volant, l'autre sur sa jambe à elle. La voiture file et leur cœur se fêle. Si elle était sa sœur et lui, un mec quelconque, il retire sa main. À cette pensée passe les vitesses et fonce en prison. Souvent il se disait, quand je sors, je change, mais dehors, son démon prenait toujours le pas sur son ange. Il tourna la tête à gauche et le camion déboula à droite.
Voilà, c'était donc Abdelmalik, et donc qui parlait, c'est ça que je demandais, en fait, c'est Juliette Gréco. Voilà.
Oui.
Parce qu'ils ont le même accordéoniste, c'est ça?
Oui, c'est le mari, Johannes, c'est le mari de Juliette Gréco.
De Juliette Gréco, tout à fait.
C'est le musicien de Brel.
De Jacques.
Et Et voilà, et puis Abdelmalik a écrit aussi pour Juliette Gréco. Enfin, bon, il y a beaucoup d'amitié, beaucoup de complicité entre ces deux êtres.
Et c'est tiré de son disque qui s'appelle Dante.
Oui.
Voilà. Alors, tu as fait une petite liste en disant, voilà, on va parler de la poésie des banlieues.
Oui.
Donc, là, je suis d'accord. C'est le nouveau Brel, peut-être pas, mais c'est le Brel des banlieues, si tu veux. D'accord.
En tout cas, c'est pas le nouveau Brel, certainement pas, mais c'est un homme qui s'est inspiré de Brel et qui ne s'en est pas du tout caché.
Oui, tout à fait.
Et donc, ça, c'est aussi, c'est merveilleux quand un artiste assume les reprises, ses sources. Au lieu de, par orgueil, de les cacher.
Tout à fait. Voilà. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont, tous styles confondus, qui sont beaucoup inspirés par, en musique, par Stevie Wonder, par les Beatles, par tout ça, tout ce que nous, on a connu à notre époque, et par Brassens, par Brel, par Ferré, tous les, ces grands auteurs. Par moi. Je plaisante. Alors, la poésie des banlieues. Qu'est-ce que tu penses des banlieues, ce qui se passe à l'heure actuelle dans les banlieues?
Ben, c'est à la fois la richesse, c'est curieux de dire ça, hein, la source de vitalité, le trésor mal connu de notre pays, et c'est terrible parce que c'est une richesse et un trésor totalement maltraité, alors que on devrait beaucoup s'appuyer sur ces millions de gens qui vivent dans les banlieues en France, qui sont pas que des jeunes, loin de là, et qui sont en train de modifier notre culture, mais de la transformer. Et une culture ne vit que si elle se transforme. Donc il faut pas avoir peur des évolutions. Ensuite, je trouve qu'elle est très maltraitée. Et d'ailleurs, le dernier rapport sur les zones, tu sais, prioritaires d'éducation... est catastrophique, puisqu'il montre que les moyens faits pour l'éducation, la jeunesse de ces gens, sont en réalité si pauvres qu'ils contribuent presque à accentuer les inégalités dans le pays, alors que là est la source de toute notre richesse, de toute notre jeunesse, de tout notre métissage, la France étant une histoire de métissage successif. C'est là qu'il faut s'appuyer pour construire notre pays.
Donc je suppose que tu ne crois pas que nos ancêtres étaient les Gaulois.
Ils étaient aussi Gaulois, ils étaient aussi Celtes.
Bien avant les Gaulois.
Ils étaient aussi Romains, ils étaient aussi Étrusques, ils étaient aussi Cro-Magnon, ils étaient aussi
Gaulois. Il paraît que notre mère à tous vient d'Afrique, de toute façon.
Voilà,
c'est reconnu, ça.
Ils étaient humains.
Oui, oui.
Voilà, nos ancêtres étaient des humains.
Est-ce que les gens ont peur de la différence?
On a toujours peur de la différence, alors qu'on devrait l'embrasser et l'aimer passionnément.
Tout à fait. Alors, on parlait donc de la banlieue, et le prochain morceau que tu as choisi, c'est les prisons. Alors, y a-t-il un lien?
Bien sûr, il y a un lien. On voit bien qu'on n'en est pas encore là en France, mais dans certains pays comme les États-Unis, la prison est la manière de traiter le problème social et la marginalité sociale. Le nombre de prisonniers en France, contrairement à ce qu'on pense, a beaucoup augmenté. Je me souviens que dans ma jeunesse, on était entre 30 et 35 000 prisonniers. On est à 60 000 prisonniers. Et que je sache, la population de la France n'a pas doublé. Or, déjà à l'époque... on disait que dans les prisons, et puis c'était pas des ondes, c'était des preuves, qu'un grand nombre de prisonniers qui étaient emprisonnés n'avaient pas lieu d'y être. Ce sont parfois des malades mentaux, ils devraient être traités et soignés avant d'être emprisonnés. Ce sont aussi la prison n'est pas toujours la réponse éducatrice, parce que si la prison est une vengeance pour faire du mal à une personne qui a fait du mal, elle n'est pas digne des valeurs de la République.
Voilà. Initialement, la prison, c'est priver les gens de liberté. C'est pas de les... une fois qu'ils sont enfermés, qu'ils aient plus droit à rien, les tabasser.
C'est pas une torture légale. Voilà. Et ce n'est pas une torture mentale légale. Et ça devrait être dans une République qui porte les valeurs de la Révolution, dont on parlait tout à l'heure, un moyen de réhabiliter, de rééduquer, de redonner des chances, de réinstruire. En tout cas, il faut surtout penser à la sortie de la prison. Et il faut que la personne qui sorte de prison soit une personne qui soit apte à devenir heureuse et être utile à la société.
Voilà. Alors que là, le but de ça, à l'heure actuelle, c'est plutôt d'essayer de remettre des gens dans des cases et de leur casser tout ce qu'ils ont en eux, quoi, de peu différent.
On les brise.
C'est pas très bien.
On les casse. On les corrompt. On les humilie. Et il est quand même bien difficile, C'est pas volontaire, c'est souvent les conditions extrêmement mauvaises que fait la prison aux prisonniers par manque de moyens. Et au lieu de travailler à la réhabilitation, on économise des sommes misérables à l'échelon d'une économie d'une puissance moyenne comme la France. Les sommes économisées, les sommes non dépensées ne représentent en réalité rien par rapport au produit national brut. Et il faudrait bien sûr de l'argent, mais pas tellement que ça, pour faire en sorte que les personnes qui sont emprisonnées d'abord soient moins nombreuses, beaucoup mieux traitées, beaucoup mieux réhabilitées, et à terme, la société ferait de très grandes économies et éviterait de grandes souffrances.
Voilà, toi tu dois savoir, le prix, moi en tant que chanteur, je vois le prix d'une affiche, rien qu'en noir et blanc, des petites affiches. Quand il y a des élections, il y a des panneaux, Giraudy, des milliards d'affiches en quadrichromie, ça vaut une somme monstrueuse. Tu crois qu'avec cet argent, on pourrait pas sauver la sécu, les prisons, les pauvres, les pâtés. C'est des milliards, et tous les gens, y compris les gens de gauche, de droite, hein, utilisent ça. Et ce fric-là, c'est monstrueux.
Je suis encore plus prosaïque que toi. Je pense que savoir dépenser au bon moment les bonnes sommes, se faire des grandes économies pour le futur, et en plus, c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est le gâteau à la place de la cerise, c'est éviter d'énormes souffrances aux humains. Et c'est quand même l'objectif numéro un.
D'accord. Alors la prison, avant la prison, il y a la garde à vue.
Oui.
Alors, garde à vue, c'est déjà un film extraordinaire.
Eh oui.
Avec Lino Ventura et, comment il s'appelle, celui qui est mort là?
Serrault.
Oui, Michel Serrault. Film magnifique.
Oui.
Et là, c'est une chanson d'Eddie Mitchell.
Oui. Qui se conclut par une invitation à faire un chèque au soutien aux prisonniers. Ou aux prisons. Parce que, effectivement, il est bien facile de parler violemment des punitions et des prisons pour tous ceux qui se conduisent pas toujours comme il faudrait. Mais ceux qui parlent comme ça ignorent totalement de quoi ils parlent. Et ils ignorent totalement que, la prison doit être un lieu de réhabilitation et non pas un lieu de vengeance.
Voilà, et je pensais tout à l'heure, pendant que tu parlais, qu'il y a beaucoup de gens là qui sont chez eux, qui sont en prison. Parce qu'il y a une phrase qui dit « La liberté, c'est le choix de sa prison ».
Oui.
Ça se dit, ça. Mmh. Il y a beaucoup de gens qui sont tellement pauvres, machin, qui font tout pour sortir de cette prison, en justement, en faisant des vols, des machins, et puis après, ils se retrouvent...
Mais je veux pas juger les actes de délinquance. On peut pas les approuver, et de ma part, il y a aucune démagogie. Il y a l'idée que, à partir du traitement d'une personne qui est justiciable, la société pourrait faire beaucoup mieux pour être à la hauteur des valeurs qu'elle est censée défendre.
Mmh. Alors comment tu penses que les trois quarts des gens qui nous dirigent, et ne serait-ce que le maire de Villeneuve-sur-Lot par exemple, ou Sarkozy, qui ont des casseroles, nanana, eux ils sont pas en prison?
Je souhaite pas plus la prison pour eux que pour les autres. Je souhaite simplement que les gens se comportent mieux.
Voilà. Allez, on va écouter Garde à vue d'Eddie Mitchell, Schmoll.
Oui.
Et son vrai nom, c'est?
Ah, je sais pas.
Ah, je te dirai tout à l'heure. Je sais, mais là, j'ai oublié.
Voilà, j'aime beaucoup.
On surnomme Schmoll.
Voilà, Schmoll. En tout cas, un grand monsieur.
Oui, garde à vue.
Passer le temps en garde à vue, c'est bien normal. On avoue tout, même en mentant honnêtement. En garde à vue, ça c'est fatal. On vous agonise, vous traitant de tous les noms. Dans l'univers dit carcéral, y'a pas que des loups, y'a des moutons, y'a des pigeons. Circulation. Je roulais à 230 sur la route des vacances. Au péage, on m'attendait, tel un champion. Arrêté puis escorté par deux motards. Retrait de permis, somptueuse contravention. En cellule et alco-test, et je passe sur le reste. En garde à vue, je boirai moins qu'à la maison. Okay. mal. C'est le moment de prendre de bonnes résolutions, de faire amende honorable, signer un chèque pour améliorer les prisons. Hey! Je roulais à 230 sur la route des vacances. Au péage, on m'attendait tel un champion. Arrêté puis escorté par deux motards. Retrait de permis somptueuse, contravention. En cellule et alcotest, et je passe sur le reste. En garde à vue, je boirai moins qu'à la maison. Monsieur l'agent, je peux avoir une bière? Pardon, je voulais dire de l'eau, bien sûr, de l'eau. Je peux fumer? Alors, vraiment, c'est interdit aussi. Bon, je vais faire un somme.
Voilà, c'était Claude Moine,
voilà.
Lucas Schmoll et Dimitri. Oui. C'est trois noms et surnoms. Et donc, tout ça, alors, est-ce qu'en prison, tu te fais des amis? Parce que le prochain chapitre que tu voulais aborder, c'est l'amitié et la désillusion, et les désillusions.
Eh bien, la prison, c'est un monde que je n'ai jamais connu, mais je suis très sensible à des gens qui en parlent. Entre autres, il y a, je sais plus, l'ancien député de droite qui, de Lyon. Qui en parle beaucoup, qui est un ancien prisonnier, qui lutte pour l'amélioration des conditions des prisonniers en France.
Il y en a un qui en a beaucoup parlé en sortant.
Oui.
C'est l'ancien président de l'Afrique du Sud. Et oui.
Et oui, bien sûr.
Mais, qui s'appelait
Mandela.
Nelson Mandela.
Nelson Mandela. Mais,
qui a fait pas mal de temps, lui, en prison.
Oui, 20 ans.
20 ans de 20 prison. Ans.
Mais en France, comment il s'appelle? Bon, c'est pas grave. Ce personnage politique, depuis d'ailleurs, n'a pas refait de politique, mais par contre se consacre beaucoup à l'amélioration des conditions des gens en prison.
L'ancien maire de Lyon, tu dis?
Non, c'est l'adjoint. Enfin,
parce que c'était.
Ben, c'est pas grave, c'est pas très
Michel
grave.
Noir.
Ben voilà, ben c'est le gendre de Michel Noir. Le gendre de Michel Noir.
Ouais.
Et il en parle avec beaucoup d'humanité. Et. Je lui donne entièrement raison. Donc, c'est pas une question de droite ou de gauche. C'est une question d'adhésion à des valeurs d'humanité.
J'ai l'impression que ce mot, de toute façon, ces mots-là, droite et gauche, pour moi, ça ne veut plus rien dire. Il y a des gens intelligents et des abrutis, quoi. J'ai peur que la politique rende de plus en plus tous les gens abrutis, quoi. Non?
Moi, il me semble que ça a beaucoup de sens, la droite et la gauche, mais oui, il y a des gens très intelligents partout.
Maintenant, ça a beaucoup moins de sens, parce que les gens qui les représentent, ils ont plus ces valeurs qu'il y avait une époque.
La pensée unique néolibérale envahit totalement nos cerveaux, mais les idées, elles existent et elles demeurent.
Oui. Oui, mais elles ne sont pas appliquées.
Non.
Alors, ça fait partie justement des désillusions. Mmh. Moi, à une époque, j'ai voté pour un monsieur contre quelqu'un d'autre, contre cœur. Je m'en mords encore les machins, mais beaucoup moins que le dernier pour qui j'ai voté, qui proposait des trucs et qui, en fait, il a fait pire que celui qu'il y avait avant, sans dire les noms de Hollande, par exemple.
Oui.
Je ne dis pas le nom. Voilà. Là, c'est grosse désillusion.
Nous aurons beaucoup de mal pour choisir.
Voilà.
Voilà.
Et oui. Et toi, Tong, on peut le dire, tu es socialiste, il n'y a aucune.
Oui, je suis socialiste.
J'ai la carte parce que je connais beaucoup de mes amis qui étaient socialistes et qui ont renvoyé la carte.
Mais oui, la plupart de mes amis ont renvoyé la carte. Et moi, je ne m'y suis pas encore résolu. Mais je ne suis pas un fanatique pour ça. ni
des hommes en place.
Mais par contre, j'ai une qualité parmi mes défauts, c'est la fidélité. Oui. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que les autres ne sont pas fidèles parce qu'ils l'ont rendu. Ils estiment peut-être qu'ils sont plus fidèles à leurs propres idéaux en rendant leur carte.
C'est tout à fait ça.
Voilà.
Et parce qu'on ne peut pas dire qu'Hollande était fidèle à ses amis en appliquant absolument pas ce qu'il avait promis de faire à ses amis.
Ce que je veux dire du moins, c'est que donc, dans le mot fidélité, il n'y a pas de jugement vis-à-vis de ceux qui en sont partis, parce que je suis persuadé que la plupart d'entre eux restent très fidèles à leurs idéaux. Voilà. Donc c'est par rapport à la difficulté de se désengager. Voilà.
D'accord. Est-ce que tu as déjà perdu des amis ?
Beaucoup. Beaucoup. Alors.
Et est-ce que tu crois, après ton voyage donc dans la mort,
oui,
que tu les reverras un jour ? Parce que là se pose le problème d'une autre vie, de ta croyance. Est-ce que tu es croyant ?
Oui, je l'ai toujours été.
Oui, mais est-ce que tu es croyant dans, je veux dire, catho, curetail et machin, ou tu crois qu'il y a quelque chose d'autre ? C'est pas du tout la même chose.
Alors, je suis catholique parce que je suis de culture très peu, mais un peu. Et
si tu bois du vin,
je bois du vin, je mange du pain.
Voilà, je sais pas, c'est mon cul, j'ai connu
du pain et du vin, oui. Mais j'assume ça, mais je suis extrêmement critique. Je pense que la religion devrait absolument se moderniser. Oui. Je pense qu'on devrait aller vers une religion universelle. En ça, je suis bien révolutionnaire. Je crois au culte de la raison. Je suis spinoziste, c'est-à-dire moniste. Je pense que Dieu, c'est la nature, et que la nature, c'est Dieu.
Oui, c'est pas pareil. Voilà. C'est une autre, oui.
En tout cas, je suis pas fanatique.
Quand tu penses que le pape disait de mettre le préservatif à l'index, c'est pas là qu'il fallait le mettre.
Non,
il n'était pas au courant.
Il savait pas tout.
Il savait pas tout.
Effectivement. Il faut, par contre, autant il faut savoir mettre des préservatifs pour éviter de faire du mal aux autres, autant il faut savoir enlever les préservatifs dans sa vie. Parce que le préservatif, c'est quand même à la fois le symbole de l'amour libre, de la protection de l'autre, etc.
Oui, c'est ce que j'ai dit en 1968, on n'a pas connu ça à personne.
Voilà.
Le sida n'existe pas. Enfin,
voilà.
Non, n'existe
mais
pas.
En même temps, beaucoup de gens vivent avec des camisoles sur leur tête, des prisons sur leur tête. Tu en parlais tout à l'heure, des gens qui ne sortent pas de leur certitude.
Justement, j'allais te parler de ça.
Voilà.
Par exemple, la drogue, rien. Les pétards que moi je rencontre, et il y a le reste. Et alors, la drogue, il y a tous les mecs qui vendent, qui viennent de brûler, là, tous les flics et tout ça, ça c'est le mauvais côté, quand même. Nous, on a connu les pétards en mai 68, les machines, ça n'a jamais fait de mal à personne, c'est vrai, quand même. Et par contre, est-ce que la cam isole de force ? Alors, ça, c'est un jeu de mots, mais est-ce que ça. À ton avis, toi qui es psychologue ?
L'expérience que j'ai. Ne peut pas me pousser à être pour la libération de la drogue, bien que j'en comprenne.
Ouais, attention, la drogue.
De la drogue,
pétard,
du hashish, etc.
Non, parce qu'il y a
des drogues douces. Mais
les cigarettes qui sont autorisées, l'alcool est autorisé,
et
ça fait beaucoup plus de mal qu'un pétard.
Tout à fait. On oublie tout à fait les dizaines de milliers de morts tous les ans. Et dizaines de milliers de morts de la drogue. Enfin, pas de la drogue, de l'alcool et du tabac. C'est pas la peine d'en rajouter une couche. Avec d'autres produits, je comprends très bien les arguments et ils sont tout à fait soutenables qui vont vers une libéralisation du hashish, etc. Mais je comprends très très bien aussi les arguments inverses quand ils ne sont pas réactionnaires. Quand il pense aux soins qu'on doit porter à notre jeunesse. C'est-à-dire que mon avis n'est pas tranché. Voilà.
Et moi, je crois que pour le moment, c'est comme
que je ne sais pas.
C'est comme les machines à poker d'une époque, tout ça. Ils étaient interdits jusqu'au moment où l'État a réussi à ponctionner, à mettre un impôt dessus, comme ils font sur les cigarettes. Donc, je pense que c'est une énorme hypocrisie. Bon, bref.
Par contre, comme pour l'alcool, comme pour le tabac, car oui, tu as tout à fait raison, ils font énormément de mal. Toutes les personnes que j'ai vues se droguer régulièrement avec des drogues dites légères, je les ai quand même toujours vus, relativement diminués. Et j'ai beaucoup regretté pour eux par rapport à l'intelligence, au talent qu'ils avaient, pour certains d'entre eux en tout cas.
Et oui, mais d'un autre côté, tu prends les gens, si l'absinthe n'avait pas existé, il y a des tas de poètes qui n'existeraient pas. Donc,
c'est évident.
Après, si...
C'est pour ça que mon avis n'est pas tranché.
Voilà. Le mien, lui, par contre. Voilà. Allez, justement, on parlait de tous ces artistes.
Oui.
Ben, on va écouter John Baez qui nous chante Pauvre Rutebeuf.
Pauvre Rutebeuf, oui.
C'était écrit par François Villon, ça.
Par Ruteboeuf.
Ruteboeuf.
Par Ruteboeuf. C'est de l'époque de...
Ruteboeuf, c'était un mec qui écrivait.
Oui, je pense, oui.
Ah ouais. Et, mais l'époque de Villon.
C'est l'époque de Villon. Tout à fait. C'est la poésie du XIIIe siècle.
Oui. C'était aussi par Brassens.
C'était des garnements, hein. C'était des gens qui se droguaient à leur façon, hein, avec beaucoup d'alcool, etc. C'était...
Toi, John Baez, elle a fumé des pétards. Comme
ah oui,
ils sont pas morts, hein.
Elle a beaucoup fumé de pétards et ça n'a pas empêché d'être...
Et de faire des chansons extraordinaires, d'avoir une voix extraordinaire.
Et d'être une actrice, une...
Il y a des mecs qui n'ont pas fumé de pétards comme Donald Trump, tu vois,
et qui seront des
sont bien abîmés.
Et oui, ils sont bien abîmés. Et c'est peut-être une autre drogue, mais c'est la connerie.
Tu ne crains pas qu'il, s'il arrive au pouvoir, c'est la fin du monde, Donald.
L'humanité a des ressources extraordinaires d'adaptation.
Ah bon. Voilà. Bon. Très bien. Il devrait mourir dans pas longtemps. Allez, on écoute John Baez, pauvre Ruteboeuf.
Que sont mes amis devenus, que j'avais de si pour être nu, et tant aimé. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés. L'amour est mort. C'est tes amis que vent importe, et qu'ils vantaient devant ma porte, les importants. Avec le temps qu'arbre de feuilles, quand il ne reste le branche-feuille, que n'aille à terre. Avec pauvreté qui m'atterre, qui de partout me fait la guerre, l'amour est mort. Convient pas que vous raconte comment je me suis mise en honte, en quelle manière. Que sont mes amis devenus? Que j'avais de si pur et ténu, et tant aimé. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés. L'amour est mort. C'est tes amis que vint importe, et qu'ils vantaient devant ma porte les importants. Pauvre sens et pauvre mémoire, m'a dû donner le roi de gloire, et pauvre rente. Et droit coule qu'on vise et vent, le vent me vient, le vent m'avance, l'amour est mort. Le mal ne s'est pas su venir, tout ce qui m'avait à venir m'est avenu.
Voilà, les désillusions. Hein. Ouais. Donc, tu m'as pas répondu. Est-ce que tu crois que tes amis, tu vas les revoir quelque part?
Ah oui, j'en suis persuadé.
Ah ben. T'as de la chance, parce que moi, non, j'y crois pas du tout.
Ah ben voilà, moi, je fais partie.
Par contre, je dis pas, non, je crois effectivement.
Je fais partie de ces fous qui pensent que, qui croient comme Mitterrand d'ailleurs, il croyait, il avait pas que des défauts, à la force des esprits,
Ah oui, la force des esprits.
Et je pense que les esprits, d'une manière ou d'une autre, se reconjuguent, se rencontrent.
Je le crois, parce que, tu sais, le film qui avait eu toute une étude, c'est que quand les gens meurent, tous les gens qui meurent, au moment de la mort, ils perdent 20 grammes. Ou 2 grammes, je sais pas.
Peut-être que l'esprit pèse 2 grammes.
Et ces 2 grammes, c'est toute la force qui nous fait vivre, qui va quelque part.
C'est le souffle. C'est le souffle, mais bon, il faut relire Guiton. Puis voilà, il faut relire Spinoza. Plus moderne et plus facile à lire, faut relire le Frédéric Lenoir.
Je crois que les gens, effectivement, moi on les revoit, mais on les revoit dans sa mémoire. Tout à l'heure, on mettra la mémoire à la mer.
Oui.
Il faut jamais oublier pour que les gens existent. Je vais en parler, quoi.
On ne peut que retrouver ses amis si on est une étincelle de vie et que cette étincelle de vie perd pas. Il n'y a aucune raison que les autres étincelles de vie se perdent.
Donc, c'est pour ça que Brassens parlait beaucoup de la mort, justement, parce qu'il était comme, je suis comme il était. Il y a ce doute parce qu'on ne sait pas. Et c'est pour ça que quand j'ai fait la philo, on a pris les problèmes métaphysiques. Où il n'y a pas justement, il n'y a pas de réponse. Alors il y en a qui trouvent la réponse historique avec des bases fausses souvent. Les autres qui n'ont pas de réponse, ils ont les trucs religieux.
Alors moi je définis.
Les autres, ils ont comme moi.
Tu parles du doute, mais je pense que effectivement quand je le définis.
Le doute m'habite, comme on dit. Ouais. C'est pas un gros mot.
Quand je définis la foi d'une manière lapidaire, je dis que c'est le doute, parce que le doute c'est justement la question, l'ouverture. La fenêtre, la lumière. Et en réalité, nous n'avons pas besoin de certitude. Nous avons besoin de questionnement.
Et oui. Et Brassens disait, j'aimerais avoir la foi de mon charbonnier qui est heureux comme un pape et con comme un panier.
Oui.
Et c'est vrai, c'est-à-dire heureux les pauvres en esprit.
Oui.
C'est tout ça, ça veut dire... croire, c'est une sacrée libération pour les gens qui croient. Parce que les autres, ils ont peur.
Je crois que la véritable libération, c'est le doute, parce qu'elle permet toujours de s'échapper. Alors que la foi à laquelle tu fais allusion est un enfermement et ne peut pas être définie comme une libération.
Oui, tout à fait. Alors la poésie à l'état pur, c'est quoi ça?
Eh bien, c'est Léo Ferré, entre autres.
Oui. Mais pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est?
Eh bien, c'est le... Moi qui suis psy, c'est les relations que l'on fait sans réfléchir d'une idée à l'autre, c'est le surréalisme. C'est un langage qui est au-delà du langage. C'est une musique, c'est un rythme. C'est une chaleur, c'est une sensation. C'est quelque chose, là encore, d'assez indéfinissable, mais que l'on ressent tous par le biais de l'émotion. Voilà, on pourrait en parler pendant des heures. je fais des formules très lapidaires, voilà.
En fait, tu vois, moi, j'ai jamais aimé les psys, sauf toi. Parce que tu es un psy qui est pas, moi, j'aime pas les gens qui savent tout. Et toi, justement, ce qui est bien, c'est que tu sais pas tout. Il y a ce doute qui permet, justement, de s'évader, de choisir.
Alors, si je devais commenter ce que tu dis, je pense qu'une personne qui dit qu'il sait, elle ne sait rien. En réalité, comme le dit Edgar Morin à l'heure actuelle, chaque connaissance découverte ouvre un univers de méconnaissances.
Tout à fait.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que nous ne savons rien et que nous sommes un élément de la connaissance dans un monde de découverte infinie.
C'est ça, c'est la seule chanson de Jean Gabin.
Et que je sais que je ne sais rien.
J'ai vécu toute ma vie, maintenant je peux t'assurer un truc, c'est que ce que je sais, c'est que je ne sais rien.
Voilà.
C'est ça.
Alors, moi à ma façon, je dis, depuis un an ou deux, j'ai compris qu'il ne fallait pas avoir la raison.
Oui, c'est très bien. Alors, voilà, c'est pour ça que je t'aime bien. Très bien. Et alors, ouais, la poésie, elle est à pur. Ouais. Est-ce que tu aimes les poètes?
J'aime beaucoup la poésie, bien entendu. Toujours aimé la poésie.
La poésie Foulcan, Villon, c'est du néant sur du néant.
J'aime beaucoup Villon, j'aime beaucoup Lamartine. Je viens de visiter, il y a quelques jours, la maison de Victor Hugo, dont on ne sait pas à quel point c'était un poète d'une liberté extraordinaire, dont on ne sait pas, par exemple, c'était un peintre, un dessinateur de très très grande qualité. Et oui, Verlaine, que, enfin, je sais pas.
C'est Beethoven qui était tellement sourd que toute sa vie, il a cru qu'il était peintre. Oh, mais ça, c'est un autre problème. C'est pour détendre un petit peu.
La poésie a...
Brassens, pourquoi tu cites pas Brassens?
Bien sûr, Brassens, mais...
Brassens, qui lui, se disait pas du tout poétisé. Je fais des petites chansons.
Oui, mais Brel aussi disait qu'il était pas poète.
Mais c'est un cas, Brel.
Voilà. Mais, Léo Ferré disait méchamment que ni l'un ni l'autre n'étaient des poètes. Ni Brassens, ni Brel.
Mais Gainsbourg, lui, disait, c'est un truc mineur, un art mineur, la chanson.
Oui. Mais c'est dommage parce que depuis une cinquantaine d'années, la poésie a perdu beaucoup de son aura dans notre culture quotidienne, alors qu'elle devrait être un aliment de notre vie spirituelle et qui nous invite à nous réunir.
Est-ce que le rap, il y a de la poésie dans le rap pour toi?
Bien sûr, il y a de la poésie dans le rap.
C'est un langage comme les autres. C'est une façon de...
Moi, j'ai du mal à écouter le rap. C'est pas ma culture, c'est pas mon son, c'est pas mon rythme, c'est pas...
Mais ça doit exister.
Mais quand on lit le rap, même si on s'aperçoit qu'il y a des morceaux qui sont superbes. Si je parle d'Abdelmalik, c'est parce que au départ c'était un rappeur pur et dur, et que pour moi Abdelmalik c'est Abdelmalik bien entendu, mais c'est aussi un représentant de toute cette culture que l'on doit pousser devant nous. Et qui est notre avenir.
Tout à fait. Allez, on va écouter alors, La mémoire et la mer. Ça, c'est une des plus belles chansons qui soient.
Voilà. Je ne connais pas de texte plus beau du XXe siècle.
Il y en a.
Voilà, il y en a, mais j'en connais pas. Voilà, j'en connais pas, en réalité. Il n'y en a pas qui...
Sans chemise et sans pantalon, c'est... Non, mauvais exemple.
Il n'y en a pas qui m'émeuvent davantage que la...
D'accord, mais ça tombe bien, c'est tes goûts qu'on veut connaître. Donc, La mémoire et la mer de Léo Ferré. Voilà.
La marée, je l'ai dans le cœur, qui me remonte comme un signe. Je meurs de ma petite sœur, de mon enfant et de mon signe. Un bateau, ça dépend comment, on l'arrime au port. De justesse, il pleure de mon firmament, des années-lumière et j'en laisse. Je suis le fantôme Jersey, celui qui vient les soirs de frime te lancer la brume en baiser et te ramasser dans ses rimes comme le trémail de juillet où luisait le loup solitaire, celui que je voyais briller. Au doigt du sable de la terre. Rappelle-toi ce chien de mer que nous libérions sur parole, qui gueule dans le désert des goémons de nécropole. Je suis sûr que la vie est là avec ses poumons de flanelle quand il pleure de ces temps-là, le froid tout gris qui nous appelle. Je me souviens des soirs là-bas et des sprints gagnés sur l'écume, cette bave des chevaux rats au ras des rocs qui se consume, ô l'ange des plaisirs perdus, aux rumeurs d'une autre habitude, mes désirs dès lors ne sont plus. Qu'un chagrin de ma solitude. Et le diable des soirs conquis, avec ses pâleurs de rescousse, et le squale des paradis, dans le milieu mouillé de mousse, revient fille verte des fjords, revient violon des violonades, dans le port fanfare les corps, pour le retour des camarades. Oh, parfum rare des salants, dans le poivre-feu des chersures, quand j'allais géométrisant mon âme au creux de ta blessure, dans le désordre de ton cul poissé, dans les draps d'aube fine, je voyais un vitrail de plus. Et toi, fille verte, mon spleen, les coquillages figurant sous les sunlights cassés, liquide joue de la castagnette, tant qu'on dirait l'Espagne livide, Dieu des granites, ayez pitié de leur vocation de parure, quand le couteau vient s'immiscer dans leur castagnette figure. Et je voyais ce qu'on pressent, quand on pressent l'entrevoyure entre les persiennes du sang, et que les globules figurent une mathématique bleue dans cette mer jamais étale, d'où nous remonte peu à peu cette mémoire des étoiles. Cette rumeur qui vient de là, sous l'arc opaque où je m'aveugle, ces mains qui me font du fla-fla, ces mains ruminantes qui me... Cette rumeur me suit longtemps, comme un mendiant sous l'anathème, comme l'ombre qui perd son temps à dessiner mon théorème. Et sur mon maquillage roux s'en vient battre comme une porte cette rumeur qui va debout dans la rue aux musiques mortes. C'est fini la mer, c'est fini sur la plage le sable belle comme des moutons d'infini. Quand la mer bergère m'appelle,
la mémoire à la mer. C'est beau, hein?
Eh oui. C'est un
paroles
bain.
La musique.
Ferré, c'est tout. C'est l'orchestre, c'est la musique, c'est les paroles. C'est un bain. Voilà.
Tout à fait. Alors, toi, tu voulais parler. Alors, il y a les migrations.
Oui.
Et il y a aussi l'émigration.
Oui.
Alors.
Ça marche ensemble.
Alors, qu'est-ce que tu en penses de ça?
Ben, là encore, je pense que, de toute façon, il faut toujours douter. Ce qui ne prive pas de s'engager. C'est pas du tout contraire avec l'engagement. Mais c'est terrible, on vit une horreur et qu'on dénonce jamais assez. On meurt par dizaines de milliers en Méditerranée tous les ans. Personne ne peut imaginer ce que c'est que la souffrance d'une cinquantaine de personnes qui montent sur un bateau de 20 personnes, qui passent 3 jours sur ce bateau, qui chient, qui pissent, qui pleurent, qui tombent à l'eau, qui voient leur enfant mourir, parce qu'ils peuvent pas le rattraper. Même les camps, c'est digne de ce qu'on devait vivre sur des camps de concentration, et on se permet de ne pas embrasser cette misère, de ne pas l'accueillir sous prétexte qu'elle peut nous gêner ou qu'elle peut générer, c'est vrai, des malaises dans notre société, mais nous en tant qu'humains, nous sommes incapables d'aller la rencontre de cette humanité, c'est un scandale absolu.
Et alors donc, qu'est-ce que tu penses de... Bon, on a fait tomber le mur de Berlin, c'est extraordinaire. Et là, les socialistes, c'est ça, je suis obligé de le dire, sont en train de construire un mur à Calais.
Oui, mais les socialistes, mais les nationalistes en Hongrie, mais les...
Oui, non, mais les socialistes en France, le peuple soi-disant de gauche.
Mais le...
Quid?
Ça vaut même pas la peine d'en parler. Ce qui est important de parler, c'est des valeurs de l'humanité. Et parce que celles-là, ce sont des permanents. Voilà. Ce sont des universels. Et au-delà des étiquettes, on doit s'accrocher à ces universels. En tout cas, et puis, aucun de ces mots-là, de ces reproches-là, ne peut être à la hauteur de la souffrance absolue de ces êtres qui se jettent à la mer, qui se sacrifient, qui se ruinent, de ces familles qui se ruinent absolument pour permettre à un des leurs d'avoir la chance d'échapper au malheur du Darfour, au malheur de l'Érythrée, au malheur...
C'est-à-dire qu'avant, la France était considérée comme un pays d'accueil.
Oui.
C'est terminé, ça.
Non, elle est toujours un pays d'accueil, ouais. Mais elle pêche beaucoup.
Voilà. Bon, ben écoute, on arrive à la dernière minute de l'émission, c'est passé super vite. Et je te réinviterai parce que c'est... ça fait beaucoup penser, réfléchir, tout ça, c'est bien.
Je suis un amoureux de la raison, du doute et de la foi.
Et de la foi.
Voilà. Ce qui n'est absolument pas contradictoire.
Moi, je suis athée, Dieu merci. Comme on dit, je suis pas superstitieux, ça porte malheur.
Et moi, je dis que j'ai ce bonheur extraordinaire d'avoir l'intuition du doute.
Ah, mais c'est très bien. Voilà. Tu me l'as un peu donné, là. C'est bien. Mais merci d'être venu, d'être resté, surtout. Faire un gros bisou à Carla. Merci à César.
Voilà. Et Michel sera toujours l'adorable Michel. Voilà.
Merci à Peter aussi.
Et à Peter.
Et bonne semaine. Et on va se quitter sur une autre chanson d'Abdel Malik.
Oui.
C'est ça.
Gibraltar.
Voilà, Gibraltar, c'est le détroit de Gibraltar. Oui. C'est...
Pensez-y à ces gens qui risquent la mort. C'est nos frères, c'est nos sœurs. Ils n'ont pas notre couleur, c'est tout.
Allez, mais bonne semaine et à mardi prochain. Ciao.
Détroit de Gibraltar, y a un jeune noir qui pleure un rêve qui prendra vie une fois passé Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar, y a un jeune noir qui se demande si l'histoire le retiendra comme celui qui portait le nom de cette montagne. Sur le détroit de Gibraltar, y a un jeune noir qui meurt sa vie bête de gangsta rappeur. Mais sur le détroit de Gibraltar, y a un jeune homme qui va être celui que les tours empêchaient d'être. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui boit. Dans ce bar où les espoirs se bousculent, une simple canette de Fanta. Il cherche comme un chien sans collier le foyer qu'il n'a en fait jamais eu. Et se dit que peut-être, bientôt, il ne cherchera plus. Et ça rit autour de lui. Et ça pleure au fond de lui. Faut rien dire et tout est dit. Et soudain il se fait... Derviche tourneur, il danse sur le bar, il danse, il n'a plus peur. Enfin, il hurle comme un fakir, de la vie devient disciple. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui prend vie, qui chante, dit enfin je t'aime à cette vie. Puis les autres le sentent, le suivent, ils veulent être or puisqu'ils sont cuivre. Comme ce soleil qui danse, ils veulent se gorger d'étoiles et déchirer à leur tour cette peur qui les voile. Détroit de Gibraltar, y a un jeune noir qui n'est plus esclave, qui crie comme les braves, même la mort n'est plus entrave. Il appelle au courage celles et ceux qui n'ont plus confiance, il dit « Ramons tous à la même cadence !» Dans le bar, y a un pianiste et le piano est sur les genoux. Le jeune noir tape des mains, hurle comme un fou. Fallait qu'elle sorte cette haine sourde qui le tenait en laisse, qui le démontait pièce par pièce. Sur le détroit de Gibraltar, y a un jeune noir qui enfin voit la lune le pointer du doigt et le soleil le prendre dans ses bras. Maintenant il pleure de joie, souffle et se rassoit. Désormais l'amour seul sur lui a des droits. Sur le détroit de Gibraltar, un jeune noir prend ses valises, sort du piano bar, échange ses quelques devises. Encore gros d'émotion, il regarde derrière lui et embarque sur le bateau. Il n'est pas réellement tard, le soleil est encore haut. Du détroit de Gibraltar, un jeune noir vogue vers le Maroc tout proche. Vogue vers ce Maroc qui fera de lui un homme sur le détroit de Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar. Vogue. vogue vers le merveilleux royaume du Maroc. Sur le détroit de Gibraltar, vogue, vogue vers le merveilleux royaume du Maroc.